tout de suite sur France Culture, du lundi au jeudi, l'habituel nouveau rendez-vous, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio aux coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient addiction. Cette semaine, les pollutions invisibles, une rediffusion d'un documentaire d'Inès Leroux, réalisé par Diffie Mariani. Au départ de cette série, il y a l'inquiétude d'une fille pour sa mère, le souci d'être juste, un désir de vérité, de l'opiniâtreté et une certaine lucidité quant au cynisme des intérêts commerciaux. Il y a aussi des gens qui vont mal, qui tombent malades, qui ne peuvent plus rien manger, qui ne peuvent plus rien sentir, qui deviennent allergiques à tout, des gens qui fouinent, qui se débrouillent, qui se renseignent, qui se battent, qui dénoncent à en perdre le souffle et qu'on aimerait mieux croire un peu fou. Et puis il y a du mercure, de l'uranium, des pesticides et de l'amiante. Pour commencer, les personnages, un couple amoureux de la région est tombé des nues, de vieux écologistes à qui on ne la fait pas, des chercheurs de bonne foi, des entreprises qui le sont moins, les propriétaires d'un étang qui ne veulent pas laisser la pollution ruiner leurs souvenirs de famille et un mineur à la retraite. Ensuite, le décor. Une allée bordée de vieux arbres, des compteurs gégères, une vieille et belle maison, des étangs pollués, des roches radioactives, des mines d'uranium obstruées, une nature luxuriante et du minerai dans un bocal comme un drôle de souvenir au fond du jardin. On est en France, dans le Limousin, près de l'eau. Les canards et les oies ne sont pas contents et ils ont bien raison.
Je vais vous emmener à l'ancienne mine du Puy de l'Age, donc qui est sur la commune de Bersac-sur-Rivalier, qui est couverte aujourd'hui par un étang et qui sert en même temps de club de pêche. Je crois qu'il s'appelle le Martin Pêcheur.
Mine d'uranium, le Limousin face à son passé. Inès Leroux, Diffie Mariani.
On est devant un site remarquable, oui, parce que vous voyez, c'est boisé autour. Et avec le soleil aujourd'hui en plus, c'est assez beau. Hein.
Il y a des grands roseaux, des rochers qui sont à pic dans l'étang. L'étang est très calme, tout lisse. Et il est bordé par des petites montagnes boisées. Ça, c'est une ancienne mine à ciel ouvert.
Alors, c'est une ancienne mine à ciel ouvert sur la partie que l'on voit en étang. Ce qu'on peut éventuellement voir, c'est peut-être une radioactivité autour de l'étang ou près de la sortie de l'étang qui peut être peut-être supérieure à ce que l'on voit dans le paysage naturel. J'ai un appareil qui s'appelle un radiamètre. Et donc ça permet de mesurer de la radioactivité sur des terrains, etc. Donc là, sur un terrain naturel, on a à peu près 200 chocs par seconde. Donc 200 chocs par seconde, c'est des niveaux qu'on va retrouver relativement couramment dans le Limousin, entre 100 et 200. Bon, c'est des niveaux qui sont relativement courants. Maintenant, on va s'approcher de la mine. Ah, là, on monte. On commence à faire de la musique. Là, on est à plus de 700. On est toujours sur le chemin de promenade. Hein. Là, on est monté à 800, là. C'est quelque chose que l'on remarque à peu près autour de toutes les mines qui sont dans le Limousin. Il y a environ 70 mines d'uranium dans la région. Mais dans tous les cas, on est sur des niveaux qui sont bien supérieurs à ce que l'on va trouver dans un environnement qui n'a pas été modifié.
Et qu'est-ce qui s'est passé exactement dans le Limousin, alors ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, chaque pays a voulu se doter de l'arme nucléaire. Donc on a cherché de l'uranium. Et puis en 1947, on en a trouvé à Saint-Sylvestre, donc pas très loin de Limoges. Donc suite à ça, il y a une exploitation du minerai d'uranium qui a démarré. Et la dernière mine qui a fermé en Limousin, et d'ailleurs qui a fermé en France, hein, c'est la mine de Jouac, qui est dans le nord de la Haute-Vienne, qui a fermé en 2001. Voilà, donc en gros, une cinquantaine d'années d'exploitation minière. Et des vestiges pour quelques siècles. Quoi.
Et pourquoi en fait? Pourquoi il y a eu tous ces vestiges?
Une exploitation minière, que ce soit dans les années 50 ou que ce soit aujourd'hui, c'est toujours une industrie du déchet. Si vous faites une mine d'uranium, quand vous allez avoir des bons filons, vous aurez un kilo d'uranium par tonne de minerai. Pour extraire une tonne de minerai, des fois vous allez découvrir 10 tonnes de roches autour. Et une fois qu'on a enlevé ce kilo, bah, tout le reste, ça reste des déchets, donc ce qu'on appelle des stériles miniers, ce qu'on appelle des déchets miniers, mais ça reste sur place.
Vous ressentez peut-être le malaise de Dominique Bergot, ingénieur en radioprotection, ancien inspecteur des mines de l'Adrial, à s'exprimer sur les anciennes mines d'uranium.
Par ici.
Entre déni et rumeur, les anciennes mines travaillent les consciences limousines. Ici, en Limousin, 36 000 tonnes d'uranium ont été produites. De quoi alimenter nos centrales pendant environ 2 ans. Et 50 millions de tonnes de déchets sont restées sur place. Les débris miniers, pourtant encore radioactifs, appelés stériles, ont été dispersés sur le territoire. Ils ont servi de remblais pour les chemins de promenade, pour les routes, ou même pour des maisons d'habitation. Mais la radioactivité est indétectable pour les habitants et les promeneurs. Seul un compteur Geiger permet de décrypter l'envers du décor. Nous nous rendons chez Geneviève et Olivier, qui ont découvert cette réalité un peu trop tard. Ils nous attendent tout au bout d'une longue allée, assis sur les marches de leur petite maison.
Bonjour!
Merci Geneviève, le pauvre. Bienvenue, amenez-vous. Vous savez, vous connaissez l'histoire?
Non.
C'est le domaine historique du porcelainier Havilland, 1850 à peu près. Et il a trouvé un filon de kaolin exceptionnel dans la région. Et il s'est mis en quête aussitôt d'un domaine où il pourrait habiter. Donc il a trouvé ici parce qu'il y avait une vue splendide justement. Et il a fait construire un château 19e, un château de porcelainier, hein. Il faut aimer. Et la maison qu'on habite qui est là, c'est ni plus ni moins que la nurserie. Voilà. C'est une vue à presque 180 degrés qui n'est pratiquement pas altérée. Et on espère que ça durera. En fait, ici, on a un paysage quand même typiquement limousin. C'est-à-dire, derrière nous, il y a les fameux monts d'Ambazac, très boisés. Là, les prairies qui servent donc à l'élevage extensif des vaches limousines. Et puis, à l'horizon, on a ni plus ni moins que le plateau des mille vaches. Quand il fait beau, on le voit bien, là, à cet endroit-là. Derrière nous, on a le mont Gerbassou. Et derrière nous, on a le château de Montmery, le fameux château de Montmery.
Olivier et Geneviève, comment vous avez trouvé cette maison?
Nous, on venait de Paris. Je venais d'être muté en Limousin. Et on avait repéré simplement 2 maisons, comme ça, sur Internet. Et quand on est arrivé ici, en début d'après-midi, avec l'agence, j'ai vu cette allée, avec ses hêtres et ses chênes séculaires. Et j'ai dit à Geneviève, même s'il y a une bicoque au bout de l'allée, c'est pas grave, on achète parce que l'allée est vraiment incroyable.
Et j'étais d'accord, c'est vrai, oui, oui.
On était enchantés, oui, on était enchantés. On avait le sentiment de fuir la pollution parisienne. On était heureux comme tout.
On ne savait pas encore qu'on allait retrouver une autre pollution.
On était à des années-lumière d'imaginer, en effet, qu'on allait prendre conscience que la France était quelque part une poubelle nucléaire dont l'épicentre était le nord de la Haute-Vienne, c'est-à-dire ici même, sur le lieu même où ça s'est passé. Il règne en effet une sorte d'omerta, autant par les pouvoirs publics que par les gens qui en ont été victimes. Parce qu'en fait, il y a une sorte de culpabilité et de honte, en fait, je crois.
Pourquoi culpabilité et honte?
Pour avoir laissé faire ça, pour avoir laissé faire autant de dommages à l'environnement, avoir fait prendre autant de risques sanitaires aux populations, je pense. Tout le monde en est conscient, mais on se l'avoue pas trop bien. Et je suis assez sûre de ce que je dis, parce que même nous, ça nous atteint, ce syndrome. C'est-à-dire que quand on reçoit des amis, un peu comme vous, ils arrivent, ils admirent le paysage, et nous, on a le cœur un peu serré parce qu'on se dit,
on leur dit, on leur dit pas. Du décor, ouais.
On leur dit ou on leur dit pas. qu'à 100 mètres d'ici ou 200 mètres d'ici, il y a des véritables décharges nucléaires, hein, qui d'ailleurs ne portent pas ce nom-là. Hein. Quand on lit la documentation officielle, ce sont des
centres de stockage de matériaux marqués.
Voilà. Jamais on parle de poubelles nucléaires.
Selon Areva, il n'y a pas de décharge nucléaire. Voilà. Ce ne sont que des centres de stockage de sédiments marqués.
Et rien que ces termes-là montrent, illustrent ce que j'évoque quand je parle de culpabilité et de honte. Il s'agit de gommer, de banaliser, de nier une réalité sanitaire. Quoi.
Et qui est d'autant plus facile à nier que c'est un danger qui a beau être extrême. Il est insidieux parce qu'il est finalement invisible et complètement diffus.
Vous nous montrez l'intérieur de votre maison ?
Allez. Ah oui.
Alors, c'était par le perron.
Oui, il y a. Elle est dans son jus. Hein.
Allez-y.
Il y a exactement 9 portes dans cette maison pour sortir. Je ne parle pas des portes intérieures. Hein. Donc on rentrait par là, on sortait par là, on re-rentrait par là, on ressortait au milieu. Ça, c'était la roseraie, la petite roseraie.
Et depuis que vous avez découvert cette pollution qui entoure les terres autour de votre maison, vous songez rester ici ou pas ?
Alors, au tout début, quand on l'a appris, on s'est vraiment interrogé et on s'est dit « qu'est-ce qu'on fait ? On s'en va ?» À vrai dire, il était un peu trop tard parce qu'entre-temps, on avait noué des liens avec des gens. Alors, c'est une région très attachante ici, très attachante. On a tout de suite ressenti chez les gens d'ici une grande discrétion, une grande modestie, mais aussi une solidarité très active et beaucoup de gentillesse. Et du coup, on s'est attaché aux gens énormément. Et comme ces gens étaient en partie les militants qui ont lutté contre cet état de fait, on s'est dit quoi, on va s'en aller alors qu'eux se battent. Il était un petit peu trop tard pour partir, en tout cas pour partir pour ça. Mais c'est vrai que l'attachement qui a été assez immédiat avec cette région de laquelle se dégage quelque chose de profondément touchant, plus le contact direct avec ces gens qui ont été courageux, qui sont des amis maintenant, a fait qu'on est resté plus longtemps qu'on aurait peut-être dû. On ne sait pas. Ouais, c'est ça.
Bonjour Christian, comment
Salut
vas-tu
Christian.
Bonjour.
Voilà. On t'a apporté un gâteau. Christian,
c'est un personnage. Hein.
Un personnage que tout en Bazac, enfin que toute la région connaît. Dans les années 70, c'est une personnalité qui a beaucoup compté, autant sur le plan culturel. Dans les années 70, avec sa femme, il a ouvert
une sorte de taverne
en plein milieu des monts d'Ambazac, au milieu de nulle part, loin de tout. Et dans cette taverne, il donnait des concerts de groupes locaux.
Donc, il s'appelait Le Petit Coudier.
Ça s'appelait Le Petit Coudier. Il y avait des débats philosophiques, politiques. Et bien entendu, il y a eu ce combat contre l'exploitation de l'uranium.
Voilà. Je vous invite à rentrer. Allez.
Avec plaisir.
Oui, ça c'est j'avais mis ça et ça pour que les gens se signalent. Mais personne ne les utilise, tout le monde frappe. Bon, ben allez-y, vous pouvez entrer. On va arrêter la radio.
À 20h30, au théâtre Muselet de Châlons-en-Champagne.
Où est le stop, c'est là.
Vous ne connaissez sans doute pas le nom d'Adriana Cassetti.
Non, ça c'est... Ah ben si, voilà.
Vous, Christian, vous connaissez bien les mines autour d'ici.
Oui, enfin, je les connaissais bien, parce que d'abord, ça fait depuis 1994 qu'elles sont arrêtées. Ensuite, mes balades sur les mines, si je puis dire, se sont arrêtées à cette période-là. Encore que je sois venu faire deux ou trois mesures de temps en temps, ici ou là. Donc ici, l'autre jour, j'ai fait une mesure, on avait 18, pour vous donner un point de repère. 18 impulsions secondes. Voilà, je le ferme. Et puis on va aller au Geysagne, alors. Bon, ça, on peut le laisser là. Ça, oui, il faut l'emporter. Prendre ça là-dedans.
Les lunettes, le compteur.
Les lunettes,
mon
et puis...
dossier.
Allez, on y va. Voilà.
Christian, vous êtes un des tout premiers militants écologistes.
Oui. Pour nous, en 75, on ne connaissait rien du tout. pour nous, le nucléaire, c'était Hiroshima, Nagasaki, c'était ça. C'était les bombes. Et puis, quand on a appris qu'il y avait des mines, on s'est penché sur la question. Et c'est là que j'ai commencé à prendre de premières mesures, en 75, avec un compteur GGR. J'ai découvert le site des Vieilles Sagnes. À l'époque, je ne sais plus à combien était la norme. Ça devait être aux alentours de 160 impulsions par minute. Et donc, j'ai découvert aux Vieilles Sagnes une radioactivité à 14 000 impulsions par minute. Donc, j'ai averti M. François. Voilà, c'était le directeur du STEPAM, Service Technique d'Études de Protection et de la Pollution de l'Atmosphère dans les Mines. Voilà. Et M. François m'a dit, vous avez raison, je ne comprends pas, je vais aller voir et puis on va prendre des dispositions, vous inquiétez pas, on va faire le nécessaire. On s'est dit, bon, ben, il va faire le nécessaire. On a vécu tranquille, jusqu'à ce que plusieurs années après, 16 ans plus tard, oui, en 91, on décide de faire une nouvelle campagne de mesure de radioactivité dans la région. Là, à cette époque-là, la norme était passée à 82 impulsions par minute. On a fait des mesures à Saint-Sylvestre, à l'église, il y avait un peu plus, 70-80 impulsions. Et puis on s'est dirigé vers ce site des Vieilles Sagnes. J'ai mis mon radiomètre en route, mon compteur GGR en route, à partir d'ici. Déjà, j'avais 200 impulsions par minute. Et puis plus on avançait, 400, 500, 600, 900, 1500. Je me suis dit, merde, mais combien on va trouver là-bas? On peut y aller, comme ça, je continuerai à vous raconter sur place.
Et il y a souvent des gens qui se promènent par ici ?
Oh oui. Alors voilà, on arrive sur le site de l'ancienne mine des Vieilles Sagnes. Et c'est là que nous avons fait nos mesures il y a une vingtaine d'années. Oh. Oui, 23 ans. Quand on est arrivé ici, le compteur GGR s'est mis à, comment dirais-je, chanter de plus en plus fort. Et quand on s'est approché de la mine, alors là, ça a été un véritable cri. Quelque chose du genre. Le radiomètre faisait ça. Mais c'était monté jusqu'à plus de 60 700 impulsions par minute. Didier Anger faisait partie de la CRIRAD, mais il était aussi physicien nucléaire. Il est toujours, d'ailleurs, je crois, à La Hague. Et je lui avais dit, il faut que tu viennes voir le site des Vieilles Sagnes. Hein. Il est venu avec moi, mais il était effaré. Et c'est là que tout d'un coup, on était en train de faire nos mesures. Et tout d'un coup, il s'écrie, mais les gars, mais restez pas trop près, là. Vous avez une radioactivité ici trois fois plus importante que celle qu'on trouve à 300 mètres du sarcophage de Tchernobyl. On est revenu trop souvent sur ce site-là. Hein.
Et là, en fait, maintenant, ça a été clôturé, cette mine ?
Ben, ça a été clôturé il y a pas mal d'années déjà, mais parce que nous l'avons demandé.
Et je remarque également que le grillage peut être soulevé et
n'importe qui peut passer, notamment
n'importe
un enfant.
Qui. Oui. Donc c'est un site dont on ne sait pas qu'il est radioactif et qui est absolument accessible.
Voilà.
Oui. Un enfant un peu aventurier
se
glisse là-dessous parce que c'est très amusant d'aller là où c'est interdit et il s'amuse.
On a pris une mesure. Il faut la prendre. Alors attendez, le soleil est là. Oui, tournez-vous. Ça c'est les capteurs. Faut que voilà, mettez-vous comme ça. Mais en direction de la mine. Mais pas trop vers le soleil, voilà. Et 75, ça fait quand même beaucoup. Alors que nous sommes sur une mine désaffectée, bouchée depuis plus de 20 ans, et qu'il n'y a aucun panneau qui indique quoi que ce soit.
La mine des Vieilles Sagnes est désormais bouchée, et son secret probablement enfoui à tout jamais. En effet, que contenait-elle pour dégager une radioactivité de 60 000 impulsions par minute ? Christian Pénicaud, dans son livre « Le cri de la Terre », soupçonne que des déchets nucléaires illégaux y aient été enfouis.
Nous ne le saurons jamais, car en 1993, le préfet ordonne le rebouchage des vieilles sagnes. Ceci n'arrête pas la pollution, mais empêche surtout, selon le militant, tout accès à des éléments d'enquête essentiels à la mémoire du Limousin. Cependant, le premier obstacle que doivent affronter Christian et ses camarades, ce sont les mineurs. Pourtant victimes du radon et des poussières d'uranium, dont les effets cancérogènes sont bien connus par la science, les mineurs sont les premiers opposants aux écologistes. Agressions physiques, verbales, menaces de mort, ces derniers disent avoir tout subi. Nombre de mineurs ont aujourd'hui disparu et les survivants gardent un rapport à la mine ambigu.
Bonjour.
Bonjour.
On vient voir Jean.
Non, je n'ai rien à dire, moi. Non. La mine, elle est fermée, on n'en parle plus. C'est terminé.
Je les entends, les écologistes, là, avec leur radioactivité, on va tous mourir de la radioactivité. Moi, j'y ai travaillé 30 ans et puis je suis, vous voyez, je suis pas mort. Eh oui. Voilà.
Je peux vous expliquer mon projet ?
Oui.
J'essaie de reconstruire qu'est-ce que c'était le travail de mineur au fond de la mine.
Pour moi, c'est du bruit. Vous comprenez ? Le bruit. Le bruit des perfos, le bruit des chargeuses à air comprimé, hein ? Et puis le bruit des ventilateurs, hein ? Et puis, eh ben, les bruits, c'est tout. C'est tout.
Alors,
oui, bon, ben, venez vous asseoir.
Est-ce qu'on enlève nos chaussures ou pas?
Non, on ne se déchausse pas, je suis une.
Bon, oui.
Je vais pas vous expliquer les bruits, ni les sons, ni quoi que ce soit. Hein.
Oh, bah, on connaît,
les bruits d'infos, ça fait peut-être 120, 130, peut-être 140 décibels. Moi, j'en sais rien, hein. D'abord, moi, j'ai les oreilles qui sifflent maintenant, alors. C'est pour vous dire.
Vous étiez mineur dans quelle mine?
Ah, ben, on a travaillé à la Crousie, nous, là. Les mines d'uranium, quoi. Quand je suis arrivé, c'est après mon service militaire, quoi. Hein, j'avais pas de boulot. Moi, je travaillais à l'agriculture. J'étais domestique agricole, moi. Vous voyez, j'étais chez les autres. Depuis l'âge de 16 ans, j'étais chez les autres. Moi, j'ai jamais été chez moi, à part maintenant. Alors, déjà, quand je faisais mon service, ça commençait déjà à me tourmenter. Qu'est-ce que je vais bien faire? J'avais pas de métier. Hein? Alors, j'avais des copains déjà qui travaillaient à la Crousie, à Henriette, là. Et puis voilà, j'ai reçu une convocation pour passer la visite médicale, parce qu'il fallait passer la visite médicale, quoi.
Comment vous a présenté le métier lors de la visite médicale?
Ah, mais on m'a rien présenté du tout, hein. On apprend sur le tas, quoi. On apprend la mine sur le tas. Voilà.
Vous aviez un équipement particulier pour travailler devant l'uranium?
Oh, des équipements particuliers, non, pas spécialement, quoi. Nous, on travaillait en bleu en botte, et puis on avait des films pour enregistrer la radioactivité, quoi. Voilà.
Et pour vous, l'uranium, c'était quoi?
Oh, ben alors là... Ça se sent pas, hein. On ne sent pas si c'est dur, hein, qu'il y ait du minerai ou qu'il n'y en ait pas, hein. C'était pareil, hein. C'était comme si on manœuvrait de la terre, hein, des blés. Ah, c'est tout. Hein.
Vous aviez un masque quand même?
Non, oh non.
Des gants?
Ah ben les gants, oui, oui. Ah ben au début on travaillait sans gants, puis après on a eu des gants après.
Mais alors au début vous touchiez le minerai à main nue?
Oh oui, bien sûr. Pourquoi ça fait rien? Ça fait rien, qu'est-ce que vous voulez que ça vous fasse du minerai à main nue? Ça ne veut pas vous brûler, hein? Ah oui.
Et le dosimètre, qu'est-ce que vous en faisiez?
Ah ben, on nous avait donné des petites chaînettes, puis on se les collait là comme une médaille, quoi, dans la chemise. Et puis c'est tout.
Il fallait pas que vous dépassiez une certaine dose?
Ah ben non, c'était pas notre problème, ça. C'était contrôlé tous les mois, ces films-là. Les gens qui avaient trop de doses, par exemple, ben, ils les remontaient un petit peu au jour pour s'aérer, quoi, quelque temps. Voilà.
Vous vous souvenez quelle dose fallait pas dépasser?
Ah non, 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 non. Ah non, non, moi je savais pas. Non, non, nous, on n'était pas au parfum là-dessus. Hein. Ah non, non, on savait pas. C'était, ça allait dans les laboratoires, quoi. Non, 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 on ne savait rien, hein, on ne nous a jamais rien dit, non.
nous n'avons jamais rien, nous a, on ne nous a jamais dit où dépenser de ceci, où dépenser de cela. Ah oui.
Vous avez ressenti quoi quand vous avez été en retraite?
Ah ben, j'étais bien soulagé, moi, parce que j'en avais assez. Hein. Ah oui, moi, je vous dirais que j'en avais plein les bottes. Hein. Ah oui, je commençais à patiner drôlement. Hein. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que c'est un travail quand même. La mine, c'est quand même un travail assez, comment dire, assez ardu. Hein. C'est dur, quoi, quand même. C'est dur. C'est violent, quoi. C'est un travail violent, quand même, la mine. Hein. C'est pas le petit bricolage. Hein. Et alors, après, ben, on se reprend tout doucement. Hein, quand on est un petit peu en congé, comme ça, pendant quelques temps, après, on se ressaisit, quoi. On se refait un peu, quand même, quoi. Oui, voilà.
J'ai entendu dire qu'il y a des mineurs que des fois, quand ils trouvaient des beaux morceaux de granit uranifère avec de l'uranium dedans, ils le posaient sur leur table de chevet.
Oh non, non, faut pas le foutre ça sur les tables de chevet, oh, c'est que vous allez... Oh. Ah ben alors là, hein.
Et ben pourquoi vous
non,
vous
non,
en...
Non, faut pas raconter des balivernes comme ça, mais enfin, ça m'étonnerait, hein. Oh, le gars, il est drôlement con, celui-là. Ça dégage toujours un petit peu de radioactivité. On n'a pas besoin de radioactivité, là, la tête du lit, quand même. Moi, je sais que j'en avais récupéré un petit morceau. D'abord, il y est toujours. Là-bas, c'est dans un bocal au pied du chêne, alors.
On va voir si tu trouves ta pierre.
Hein?
On va voir si tu trouves ta pierre.
Oh, oui, on peut bien regarder, si vous voulez, oui. Je vais essayer de vous dénicher ça.
Ah. Tu l'as toujours, la grosse, là, qui nous avait donné ton frère.
Oh, ben non, ça, c'était du spat fluo.
Ah, mais c'est pas les mêmes.
Oh,
oui,
mais c'est pas dangereux, le spat fluo, ça dégage pas mal.
Ouais. Comment il faut qu'il va la chercher, si vous
voulez. Non, non, attends, faut que je la mette. Je l'ai mis, je l'ai.
Attends.
On a des bestioles comme les blaireaux qui passent et ils viennent gratter les pelouses là, ils défoncent toutes les pelouses. Alors après, pour faucher avec les tondeuses, ben c'est pas facile, hein. Il va être coincé. Si le bocal il est entier, là, t'es. Ah, mais là. T'es. Voilà, vous voyez, ça c'est tout désagrégé.
Ça c'est de l'uranium.
Voilà. Oui, ah ben oui. Ça doit être des gumites, ça. Oui, voilà, ça me revient. Oui, ils appellent ça des gumites.
Mais c'est quoi, c'est jaune fluo?
Ah, oh, ben c'est quoi? Ben, c'est des gumites de...
Mais enfin, c'est de l'uranium, quoi.
Ah ben, c'est de l'uranium. On dit pas de l'uranium, on dit un produit radioactif. Voilà, puis c'est tout. Alors là, voilà, il y a de la radioactivité là-dedans, quoi. Mais faut rien, quoi. Ça part dans l'air comme les CO2. Hein? Peut-être que je me lave un peu les mains.
Vous lavez bien les mains quand même, hein?
Les mains, je me les lave au moins 10, 15, 20 fois par jour, des fois.
C'est ça qui vous a sauvé, en fait.
Hey.
C'est de vous laver les mains souvent qui vous a sauvé.
Je sais pas, j'en sais rien, je peux pas vous dire. Oui, l'autre main. La mine, c'était mon gagne-pain, moi, et je n'ai pas acheté de fleurs, ni à dénigrer. Et puis c'est tout, quoi. Et puis ça m'a permis de gagner ma retraite. Comme ça, il faut travailler, qu'est-ce que vous voulez. Il n'y a pas de pétard, hein. J'ai pas acheté de fleurs, non, mais j'ai pas dénigré non plus, quoi. C'est tout.
Oui, bon, allez, hop.
Ah, il y a des canards et des poules d'eau.
Des grenouilles, des ragondins.
Le Limousin est parcouru de sources et de rivières qui transportent la radioactivité bien au-delà des anciens sites miniers. Il y a peu, Areva s'est donc vu obligé de curer le lac de Saint-Pardoux, célèbre lieu de baignade et de pêche. On y avait découvert une pollution radioactive de presque deux fois les normes autorisées. À quelques kilomètres de là, une propriétaire d'étang et sa fille nous reçoivent dans un endroit paradisiaque, à l'ombre d'un chêne, dominant le plan d'eau.
Un étang, c'est donc un lieu de vie, où on a tous plaisir à se retrouver le dimanche pour des parties de pêche, pour la baignade, pour le barbecue, et des très bons souvenirs qui y sont bien sûr attachés.
Il y a beaucoup d'enfants qui sont venus ici autour de l'étang.
Ah ben bien sûr, hein, tous les mes enfants et puis les cousins, cousines, les amis.
Donc c'est un grand étang.
Un hectare à peu près.
Avec une petite île au milieu.
Avec une île au milieu, il y en avait même une autre sur laquelle nous élevions des lapins. Mais cette île a été supprimée au moment du curage sous eau, puisqu'elle était, les sédiments qui la composaient étaient radiologiquement marqués.
Marqué, ça veut dire
marqué,
quoi?
Marqué, ça veut dire que les analyses montrent qu'il y a de la radioactivité. Donc, cet étang est alimenté par une rivière qui traverse des anciens sites d'extraction minière. Nous nous en sommes un petit peu inquiétés et nous avons demandé des analyses pour en avoir aussi le cœur net. Et ces analyses étaient suffisamment éloquentes pour qu'un curage soit nécessaire.
Vous vous souvenez du résultat des analyses?
Ah, je les ai, oui. Voilà. Donc tout ce qui est en rouge est suspect.
Le résultat global est de 34 531.
Oui, pour une limite de 3700.
Et là, quand vous avez eu ces résultats, vous avez réagi comment?
On a réagi tous de front. On s'est tous posé beaucoup de questions, bien qu'on soit, nous, de formation un petit peu scientifique. C'est les microsieverts, au final, c'est une unité qu'on n'apprend pas à l'école. Hein. Donc on a cherché, on regarde sur Internet... Mais au-delà de ça, ben on a aussi provoqué une réunion avec des personnes d'Areva, dont des responsables locaux.
Et comment ça s'est passé?
Ça s'est passé. On était contents d'être là avec ma maman. On était contents qu'elle ne soit pas seule face à ces personnes qui étaient venues à trois de souvenirs et qui auraient pu nous prendre peut-être un petit peu de haut. Voilà, on était vraiment contents de faire face, de leur montrer qu'on était là, en famille, que c'était un bien auquel on tenait, que, entre guillemets, malgré le fait qu'on soit des petits citoyens, on essayait quand même de faire quelque chose et qu'on ne laisserait pas complètement passer cette chose que nous appelons pollution, mais que Areva... ne souhaite absolument pas employer le terme. Pour autant, nous pensons bien que c'est une pollution.
Qu'est-ce que vous disiez à Areva?
Alors pour eux, il n'y a absolument pas de risque sanitaire. Il faudrait manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de poissons, des kilos de poissons. Alors peut-être, hein, nous on n'est pas, je vous l'ai dit, on n'est pas de grands scientifiques et finalement on a tendance à croire ce qu'on nous dit. Quand on sollicite l'ASN ou l'IRSN, on a...
Donc l'autorité de sûreté nucléaire,
oui.
Et l'Institut de radioprotection nucléaire.
Quand on les sollicite, on n'a pas forcément de réponse claire. Alors, on va dire qu'ils
sont assez embarrassés.
Ils sont voilà, assez embarrassés. C'est effectivement un terme qu'on peut dire.
Embarrassés.
Embarrassés.
Ils ne veulent pas se prononcer. Ils se prononceront après le curage définitif de l'étang, puisqu'il y a un curage supplémentaire qui est à venir.
Donc vous attendez?
J'attends. Il aurait dû se faire en 2014, mais donc Areva n'était pas en mesure donc de stocker les sédiments. Donc là maintenant, nous sommes en attente d'un arrêté préfectoral qui va régir ce curage.
Et vous avez des nouvelles d'Areva? Ils vous tiennent au courant?
On a plus que l'impression qu'il faut les relancer. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui est fatigant, qui est usant, moralement certainement, physiquement un peu. Donc le fait est que si nous on lâche prise, si ma maman arrête de relancer Areva ou de relancer les pouvoirs publics, hein, on est aussi en contact avec eux, et bien pendant ces périodes de sommeil de notre part, il ne se passe rien, ou en tout cas on a l'impression qu'il ne se passe rien. Contrairement à une marée noire qui est visible, là on est sur une pollution invisible. La radioactivité, là, on ne la voit pas, on ne la touche pas, on ne voit pas physiquement des effets. Donc une pollution invisible, on se presse un petit peu moins pour la régler.
Mais c'est vrai qu'on ne peut pas profiter pleinement du site.
Pas pleinement, pas sereinement.
Pas sereinement.
La sérénité, voilà, c'est peut-être ça.
Vous continuez à vous baigner?
Ah non, j'ai arrêté. Et je ne laisserai pas ma petite fille se baigner actuellement. Oui.
Et vous, Juliette?
Moi non plus, je ne me baigne pas.
C'est vous qui allez être l'héritière avec votre frère de cette maison?
Oui.
Et qu'est-ce que vous vous dites?
Pour l'instant, nous, on souhaite surtout qu'Areva prenne ses responsabilités.
Voilà, et nous pensons quand même aux générations futures. Je vais léguer à mon tour un bien qui était la fierté de notre famille, et à mes enfants, à nos petits-enfants. Et est-ce que ça ne sera pas pour eux un cadeau empoisonné?
Alors, est-ce qu'on va pouvoir passer par là? Parce que d'habitude, on passe pas par là, on passe par on longe le grillage. On va essayer de remonter. Peut-être qu'en faisant le tour, on y va.
Antoine Gattet est juriste en droit de l'environnement. Il enseigne à la faculté de Limoges et travaille pour l'association Sources et Rivières du Limousin.
Alors on voit les traces d'exploitation, hein, parce que tous les gros blocs rocheux là que vous voyez, c'est des blocs qui ont été, c'est ce qu'on appelle des versets stériles. C'est-à-dire c'est des montagnes artificielles qui ont été créées avec toute la roche qu'on a été obligé d'enlever pour atteindre les filons. À l'époque, on faisait des mines à ciel ouvert. Alors on est au bord du ruisseau des Petites Manielles, qui est le ruisseau qui récupère l'ensemble des rejets issus d'un centre de stockage des déchets de la société Areva qui est juste au-dessus. Ce que je peux vous montrer juste ici, c'est le point de rejet qui est juste de l'autre côté du pont. Parce qu'on dit souvent, la pollution radioactive, ça se sent pas, ça se voit pas. Et bien, on a des sites où la pollution radioactive, ça se sent et ça se voit. On est au niveau de ce cours d'eau, alors ça a peut-être été nettoyé d'ailleurs, on dirait qu'il y a eu un passage de débroussailleuse ou autre, mais ça n'empêche pas qu'on continue à voir des traces de flocules qu'on retrouvera sur le haut du site.
Ça ressemble à quoi les flocules?
Alors ça ressemble à une sorte de produit un peu cotonneux qui vient se fixer sur les plantes là. Ici on a un cours d'eau sur lequel la vie aquatique est quasiment impossible vu les doses de produits chimiques qu'on a sur ce cours d'eau là. Sur cette zone-là, on a fait des analyses où on était à 35 000 becquerels par kilo de matière sèche, là où le niveau naturel, c'est 200. Et là où Areva est normalement obligé d'aller dépolluer un site s'il dépasse 3700. Donc on est à 10 fois la dose à laquelle Areva est censé dépolluer le site. Et sur ce point-là, c'est assez désespérant de constater que l'État n'impose absolument rien à Areva, ne met pas en demeure Areva de trouver des solutions, gagne du temps, et se comporte de façon très différente d'autres comportements qu'il a avec les industriels normaux. Ce qui est incroyable en Limousin, c'est qu'on a l'État qui sait faire des sanctions, des mises en demeure, et qui sait sortir les gros bras quand on est face à des petits casseurs automobiles qui ne respectent pas des rejets ou des choses comme ça, ou alors des éleveurs de chiens qui respectent pas le nombre de chiens parce qu'il y a une portée qui a dépassé le nombre autorisé. Par contre, on a l'État qui ne fait rien contre la société Areva, parce que, pour nous, le problème, c'est que faire quelque chose contre la société Areva, c'est afficher le fait que les anciens sites limousins ne sont pas réhabilités correctement.
Après, encore une fois, sur ce genre de dossier-là, on dépose des plaintes auprès du procureur de la République. On n'a jamais de nouvelles du procureur de la République sur ce que sont devenues ces plaintes. Et c'est les seuls dossiers sur lesquels on n'a pas de nouvelles. C'est les seuls dossiers qui concernent, parce qu'on est une association de protection de l'environnement, on a plein d'autres dossiers. Hein. Les pollutions industrielles, on en connaît, des actions de ce type-là, on en fait régulièrement. On a toujours, en général, au moins une réponse du procureur de la République en nous disant « j'ai bien enregistré votre plainte, voilà le résultat de l'enquête, je considère que les faits ne sont pas caractérisés, ou alors je demande une enquête complémentaire ». Là, rien du tout. On fait des plaintes, on rajoute des plaintes, on renvoie les plaintes. On a un silence assourdissant de la part du procureur de la République qui jamais ne nous donne de nouvelles sur ce qui se passe sur le terrain.
Quand vous travaillez pour la DREAL, vous avez écrit dans un texte qui est censé être public, je crois, il m'est arrivé d'être convoqué par le préfet pour me demander de retirer un PV, un procès-verbal adressé à Areva. C'est vrai,
oui,
ça ?
Oui, c'est exact, oui.
Dominique Bergot, ingénieur en radioprotection, ancien inspecteur des mines de la DREAL du Limousin. Mais comment vous expliquez ça ? Le préfet n'est pas censé avoir une formation d'ingénieur en chimie de radioprotection ?
Il avait dû être bien conseillé, sans doute par Areva directement.
Et ça concernait quoi ?
Ça concernait alors c'était pas une mine, c'était une installation industrielle qui est à Bessines, qui était exploitée illégalement. Donc ça remonte aux environs de 2009, je crois. Et cette installation, en 2015, est toujours exploitée illégalement. C'est ce qu'on appelle une carothèque, donc c'est-à-dire que c'est un hangar qui abrite des échantillons de produits miniers qui ont été prélevés un peu partout dans le monde et qui fait elle-même partie d'un laboratoire d'analyse, d'un grand laboratoire d'analyse. Et en détricotant un petit peu la pelote, je me suis aperçu que c'est pratiquement tout le laboratoire qui était exploité illégalement. Donc c'est une histoire qui, 5 ou 6 ans après, n'est toujours pas résolue et n'est pas en passe de l'être.
Mais alors vous l'avez retiré, ce PV ?
Non, parce qu'un PV, ça ne se retire pas. Une fois qu'il est transmis au procureur de la République, c'est à lui de décider s'il instruit l'infraction ou s'il le classe ensuite. Je ne sais pas ce qu'il en est devenu de son côté.
Donc vous avez maintenu le PV ?
Bien sûr, oui.
Rien n'a changé malgré un procès-verbal.
Oui.
Mais là, qui devrait agir, en fait ? Si vous avez mis un PV, ensuite, ça devrait être le procureur de la République ?
Tout à fait.
Et vous lui avez déjà parlé, au procureur ?
Non.
Et vous trouvez... ça vous étonne ?
Rien ne m'étonne, moi.
Christian Andrès, ingénieur pour Areva.
Aujourd'hui, je suis tout à fait sûr de la qualité du travail qui a été fait pour gérer l'après-mine. Et je pense qu'on a toujours répondu aux demandes qui nous étaient formulées, aux exigences réglementaires. Et on a même également une obligation à faire mieux que la norme. C'est-à-dire si les travaux de réaménagement peuvent conduire... Bien sûr, c'est un impératif à respecter la norme, mais si on peut faire mieux, je veux dire, on y est fortement poussé. Donc je suis persuadé, je suis convaincu qu'il fait bon vivre dans le Limousin et à proximité des anciennes mines d'uranium.
Il y a quand même un petit impact environnemental ou sanitaire ?
L'impact sanitaire, non, je crois que celui-là peut être écarté. Je ne pense pas que... quiconque puisse nous dire qu'il y a un impact sanitaire. Je veux dire, l'impact sanitaire, il a été rejeté par tous les experts qui ont fait des mesures, des contrôles, ont vérifié nos résultats.
Mais est-ce qu'il y a eu des études sanitaires ?
L'impact sanitaire, je peux l'affirmer, il y a zéro impact sanitaire.
Comment vous le savez ?
Écoutez, on le sait puisque... il y a des amorces d'études épidémiologiques qui ont été faites justement dans le cadre du groupe d'expertise pluraliste. Les premiers résultats n'ont mis en évidence aucun impact sanitaire. C'est-à-dire que l'étude qui a été menée, ça a été mené par l'Université de Limoges, le département de géographie, en collaboration avec le centre hospitalier universitaire de Limoges. Les études ont montré... sur la base de toutes ces données, qu'il n'y avait pas mis en évidence d'un excès de maladies à proximité des sites miniers.
Il y a zéro impact sanitaire.
Et comment vous le savez ?
Ah ben écoutez, on le sait puisque il y a des amorces d'études épidémiologiques qui ont été faites justement dans le cadre du groupe d'expertise pluraliste. L'amorce et les premiers résultats n'ont mis en évidence aucun impact sanitaire. C'est un fait établi. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui personne ne
suite à notre rencontre avec Areva, nous avons voulu en savoir plus sur l'étude épidémiologique en question. Nous avons fini par rencontrer le chercheur qui l'a menée, Farid Boumediene. Nous lui faisons écouter les propos d'Areva.
Cette étude elle a été menée en collaboration avec le CHU de Limoges pour le compte du groupe d'expertise pluraliste avec, je dirais, l'œil critique de l'Institut national de veille sanitaire.
Ben, il a pas tout à fait tort. C'est un peu, enfin, sur le plan organisationnel de l'étude, c'est un peu ça. L'INVS nous a commandé cette étude-là et on l'a mis en place cette méthode-là en effet en la faisant valider au fur et à mesure par le groupe d'experts. Après la question des zéro impact sanitaire, il faut rentrer un peu dans le détail de cette étude-là pour savoir ce que l'on appelle zéro impact sanitaire. C'est-à-dire que l'étude, elle, je ne peux pas valider qu'elle ait démontré zéro impact sanitaire, mais surtout je tiens à rassurer sur le fait qu'elle n'a pas démontré un phénomène grave que l'on n'aurait pas dévoilé. Par contre, on a en effet noté certaines pathologies qui semblaient notamment être liées à des organes filtrants. Hein. Il y avait le rein, il y avait le foie, il y avait alors d'autres organes aussi, je pense la thyroïde, qui méritaient en effet quelques focus. Au moins l'étude détaillée du dossier clinique des patients, puisque nous ne sommes pas rentrés dans ce détail-là, hein. On a vraiment travaillé sur la population générale. En tout cas, je pense en effet qu'il y aurait une continuité de travail à réaliser sur l'impact sanitaire de ces anciens sites d'extraction d'uranium sur le long terme.
Est-ce que vous pouvez nous communiquer les résultats de cette étude, les résultats préliminaires que vous avez obtenus ?
Alors je ne peux pas communiquer sur ces résultats autres que ce que j'ai fait depuis le début, c'est-à-dire des grandes tendances, en expliquant qu'il y avait certaines tumeurs qui ressortaient, etc. Tout simplement parce que j'ai signé une clause de confidentialité le jour où j'ai réalisé cette étude-là. L'objectif, je pense, de cette clause de confidentialité était justement d'éviter l'alerte médiatique avant la fin de l'étude et qu'on puisse arriver à la sortie de ce groupe d'expertise. Aujourd'hui, je continue de la respecter parce que je suis un chercheur, je ne suis pas un acteur de santé publique et qu'encore une fois, il y a des gens dont c'est la responsabilité de parler de ces questions-là, chiffres à l'appui, etc. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, j'ai fait connaître cette étude-là en envoyant un exemplaire à chaque acteur de santé publique qui pouvait être directement impliqué, c'est-à-dire le registre général des cancers a un exemplaire de cette étude-là et l'ARS a reçu aussi un exemplaire de cette étude-là.
En clair, l'étude préliminaire de Farid Boumediene pointe, notamment sur la commune de Bessines-sur-Gartempe, une surincidence des cancers du rein, du foie et de la thyroïde. Selon le chercheur, c'est l'Agence régionale de santé qui avait en charge d'approfondir son étude afin de savoir si cette surincidence était liée aux anciennes mines d'uranium.
Allô ?
Oui, bonjour, je suis directeur de la santé publique à l'ARS du Limousin.
Bonjour.
Oui, je crois que vous cherchez à avoir, un interview par rapport à des problématiques d'uranium, si j'ai bien compris.
Voilà, c'est ça.
Bon, je vais essayer de le plus précis possible. Donc, l'ARS, en tant qu'autorité sanitaire, a saisi l'Institut de veille sanitaire pour savoir effectivement s'il y a une incidence sur la santé de la population. Bon, ça s'était demandé tout début de l'année 2012, et cette étude a commencé en septembre 2013. Et à ce jour, nous n'avons pas encore les résultats. Donc, moi, je ne peux pas confirmer ce qu'on vous a dit, à savoir qu'il n'y a aucun impact, je ne sais pas dire ça, parce que je n'ai pas les conclusions de l'Institut de veille sanitaire.
Et vous les aurez quand ?
Normalement, on aurait dû les recevoir. Je leur ai envoyé un mail pas plus tard que hier matin pour avoir plus d'informations, pour savoir quand est-ce qu'on les aura. Peut-être lundi, parce que j'espère qu'ils vont me répondre, parce qu'on les a relancés, je les ai relancés à plusieurs reprises pour avoir des résultats. Quoi.
Mauvaise nouvelle. En réalité, mon interlocuteur n'est pas prêt de recevoir les résultats. L'Institut de veille sanitaire nous apprend que l'étude n'a en réalité toujours pas commencé.
Farid Boumediene.
Moi, mon incompréhension, c'est comment cette thématique-là, pourquoi cette thématique-là ne fait pas partie des priorités du plan régional de santé publique. La vraie question est là. La vraie question est là, c'est que pourquoi la radioactivité ne fait pas partie des axes prioritaires de la santé publique en Limousin. Uranium et cancer étant probablement un sujet un petit peu compliqué en France, dans lequel on n'arrive pas à mettre ça sur la table, dans lequel on n'a pas envie de savoir. Pour certaines personnes, ne pas savoir permettra de mieux gérer que le savoir, probablement. C'est un peu irrationnel pour moi, mais c'est une réalité particulièrement marquée en France. On a la sensation plutôt d'être sur une thématique d'omerta, plus que de volonté de faire avancer les connaissances sur ces questions-là pour une meilleure gestion à l'avenir.
On repart par là ?
Oh, pardon.
Allez. Ouais, merci.
Vous savez, vous avez une idée des conséquences que ça pourrait avoir sur votre santé de vivre dans un environnement qui est contaminé radioactivement à 200 mètres d'ici ?
Eh bien, en fait, on n'en a pas une conscience très claire, non. On n'en a pas pas plus que les gens d'ici, d'ailleurs. On sait que c'est dangereux, on sait que c'est dangereux à long terme. Mais non, on n'a pas, justement, c'est un petit peu le problème, on n'a pas intégré, parce que ce que disait Olivier tout à l'heure est incroyablement vrai, c'est-à-dire que ça ne se sent pas. Et à partir du moment où ça ne se sent pas, on est très vite dans la négation. Même nous, hein, qui sommes quand même des écologistes relativement avertis, on a vite fait de se mettre des œillères et de se dire « mais non, tout va bien, je sens rien ». Enfin, on ne connaît même pas notre exposition, à vrai dire. Notre exposition réelle, on ne la connaît pas. Et si je vous disais qu'on ne cherche pas à la connaître, non plus. On a l'impression de partager, en fait, en partie, le destin des gens d'ici, avec les risques que ça comporte.
Ce documentaire est dédié aux instituteurs Thierry Lamiro et Christian Pénicaud, lanceurs d'alerte sur la pollution radioactive en Haute-Vienne. Ils ont essayé d'œuvrer pour les générations futures, parfois au prix de leur santé. Thierry Lamiro, malade, s'est exilé en Savoie. Et Christian, de retour de la mine des Vieilles Sagnes où il n'était pas allé depuis 20 ans, accepte de nous jouer un air de piano. C'était Mine d'uranium, le Limousin face à son passé. Merci à Cécile Descubes, Bruno Charéron de la CRIRAD, Alice et tous les habitants de la Haute-Vienne qui ont accepté de nous rencontrer. Attachée d'émission, Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination, Irène Omelianenko. Prise de son, Tanguy Le Corneau. Mixage, Claude Niort, un documentaire d'Inès Leroux et d'Ifi Mariani pour Sur les Docs.
LSD, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déblayé par Perrine Kervran avec Marie-Vonna Bolivier. Et si vous voulez mener l'enquête, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour la mine ou nous réécouter pour la centrale, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter. Et demain, dernier épisode, Henri Pézra, l'homme de l'amiante. Première partie, le temps de la prise de conscience. Et la deuxième partie, disponible sur la page de l'émission. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.